Chapitre 9. Quincy avait déjà rencontré le procureur du comté, Tim Egan, à maintes reprises. Deux fois lorsque Rainey et lui avaient été sollicités comme consultants sur des affaires locales, mais le plus souvent à l'occasion de réceptions. Une soirée de levée de fonds par-ci, un barbecue chez des amis d'amis par-là. Quincy estimait connaître relativement bien le procureur, mais en tant que profileur, il savait qu'on ne connaît jamais parfaitement quelqu'un. Peut-être Egan en pensait-il autant à son sujet. Il occupait ce poste depuis plus de 15 ans. C'était donc certainement lui qui, 8 ans plus tôt, avait pris la décision de ne pas engager de poursuite contre le frère de Charla pour le meurtre de leurs parents. À cet instant, Egan était en train de conclure une conversation téléphonique. D'un signe, il invita Quincy à prendre un siège, ce qui était plus facile à dire qu'à faire étant donné que la pièce était envahie de cartons de dossier. Quincy finit par renoncer et resta debout. Il était déjà bien content de se trouver dans un bureau climatisé et d'avoir la bouteille d'eau que la secrétaire d'Egan lui avait d'autorité mise dans la main. Egan reposa le combiné, leva les yeux vers Quincy et sembla s'apercevoir pour la première fois de l'absence de siège disponible dans la pièce. « Désolé, le comté a décidé de faire des économies sur les mètres carrés d'archivage », expliqua-t-il avec une grimace. « En théorie, les procédures sont censées être dématérialisées, donc on a besoin de moins de place, n'est-ce pas ? Sauf que l'an dernier, ils ont aussi décidé de faire des économies sur la masse salariale. Alors, que me reste-t-il comme personnel pour dématérialiser tout ce papier d'un coup de baguette magique ? Ça ressemble à une mission toute trouvée pour des stagiaires, suggéra Quincy. Ah, si les étudiants en droit ambitieux voyaient les choses comme vous. La nouvelle génération a appris à croire de ses parents qu'elle va commencer au sommet. Très peu pour eux les basses besognes. Ils préfèrent attendre dans le sous-sol de leurs parents qu'on leur offre un poste d'associé sur un plateau. Egan se leva enfin et tendit la main à Quincy qui la serra. En public, on voyait rarement le procureur sans son blazer gris et la cravate en soie de couleur vive qui était sa signature. Aujourd'hui, la veste était posée sur le dossier de son fauteuil, ainsi qu'une bande d'étoffe fuchsia. Le procureur ne portait donc que sa chemisette Brooks Brothers, les deux boutons du haut défaits. Il hocha la tête en voyant la tenue également décontractée de Quincy. « Pas souvent qu'on a aussi chaud, » dit-il. « Fichu canicule, » renchérit Quincy. Quincy n'ayant nulle part où s'asseoir, le procureur renonça à son propre fauteuil et le rejoignit de l'autre côté du bureau. Une réserve de bouteilles d'eau était posée sur une pile de cartons. Le procureur en prit une. « Il paraît qu'il y a eu de l'animation ce matin, » dit-il. L'homme n'était pas tombé de la dernière pluie. Quincy et lui n'étaient pas du genre à rendre des visites de courtoisie. « Multiples meurtres par balle, » dit Quincy en évitant d'employer le terme « tuerie ». Le suspect, un jeune de 17 ans placé en famille d'accueil, a tué la sienne ce matin. Puis deux autres personnes dans une station-service de la ville. Egan hocha la tête, on l'avait certainement déjà mis au courant. Le shérif Atkins m'a demandé un coup de main. Nouveau hochement de tête, Egan le savait aussi. Sur la deuxième scène de crime, nous avons une vidéo. Et le suspect a été identifié. Telly Ray Nash, qui n'en est manifestement pas à ses premiers faits de violence. En fait, il a tué ses propres parents quand il était petit. Le visage du procureur s'était fermé. Il dévissa le bouchon de sa bouteille, la leva, prit une longue gorgée. « Telly Ray Nash, » répéta-t-il. « La mort de ses parents. » Voilà. Il n'y a pas de dossier. Il n'a jamais été inculpé. Je comprends. Mais si vous êtes là... Quincy entendit la foule d'hypothèses contenues dans ses points de suspension, et dont la plupart n'étaient pas agréables pour un homme dans la position d'Egan. Quincy était-il là dans le but de comprendre pourquoi Egan n'avait pas poursuivi un garçon désormais soupçonné de 4 autres meurtres ? Pour mettre le doigt sur tous les signaux d'alerte qu'il n'avait pas su voir ? Pour soulever des questions qui ne feraient que devenir plus déplaisantes pour les services du procureur à mesure que les jours passeraient ? Conscient de tout cela, Quincy décida d'abréger son supplice. « Je crois que vous savez que ma femme et moi-même sommes famille d'accueil pour une adolescente. Nous avons lancé une procédure d'adoption que nous espérons voir aboutir avant Thanksgiving. » Egan hocha la tête, le front creusé de fines rides de perplexité devant ce changement de sujet. « L'adolescente en question s'appelle Charla May Nash. C'est la petite sœur de Telly. Aussitôt le procureur se redressa.
« Oh, comme vous dites.
Donc, si vous êtes là, c'est autant pour des raisons personnelles que professionnelles. » Egan reprit une gorgée, puis il soupira en croisant les bras sur sa poitrine. « Vous savez quoi ? Quand j'ai pris ma décision il y a 8 ans, je n'ai eu aucun état d'âme. Devant certaines affaires, on se pose des questions existentielles. Où est le bien ? Où est le mal ? Il y en a d'autres dont on pressent tout de suite qu'elles vous reviendront comme un boomerang. Mais Telly Nash, cette histoire avec ses parents, sa sœur... Quand la police a rendu son analyse de la scène et la psychiatre judiciaire sa radiographie de la cervelle du gamin, je n'ai eu aucun doute. C'est fou, non ? Pas le moindre doute.
« Vous me rappelez les faits ?» suggéra Quincy.
Ce que fit le procureur. Ce sont des voisins du parc de Mobile Home qui ont donné l'alerte. Il y avait eu une violente dispute, suivie de hurlements. Quand les premiers intervenants sont arrivés, ils ont trouvé Telly, 9 ans, au milieu du salon, couvert de sang, une batte de baseball ensanglantée à la main. 2 cadavres et sa petite sœur, qui avait quoi, 4 ou 5 ans, roulés en boule à ses pieds, en larmes. Quincy frémit, ne dit rien. Telly n'était pas un gamin costaud, plutôt chétif en fait. Pas d'antécédents de violence, mais des parents connus des services de police. Des signalements pour querelles conjugales, tapage nocturne, ce genre de choses. Toxicomane, d'après les policiers. L'aide à l'enfance avait été alertée 2 fois, mais avait laissé les enfants à la garde des parents. Mes services ont été avertis. Étant donné la nature des faits et l'âge du meurtrier, je me suis personnellement rendu sur place. Je me souviens que le gosse était là, pétrifié, muet. En état de choc, j'imagine. Mais ça valait le coup d'œil, je vous assure. Ce gamin maigrichon et couvert de sang, le visage parfaitement inexpressif. J'en ai eu la chair de poule. Il a été établi qu'il avait également donné un coup de batte à sa sœur et qu'il lui avait cassé le bras. Mais elle défendait quand même son frère. Elle disait que son père avait poignardé leur mère et pourchassé les 2 enfants d'un bout à l'autre de la maison. Qu'en fait, c'était elle qui avait trouvé la batte et qui l'avait donnée à Telly. Il s'est dressé contre son père dans le séjour, mais apparemment, une fois la machine lancée, il ne s'est plus arrêté de frapper, jusqu'à réduire le crâne de son père en bouillie. Et quand la petite sœur a voulu s'interposer, il l'a frappée à son tour. Elle s'est effondrée et ça l'a ramenée d'un seul coup à la réalité. En tout cas, ça a mis fin au carnage. Il était encore en état de sidération quand nous sommes arrivés et n'avait pas l'air conscient de ce qu'il venait de faire. Egan regarda Quincy. « Je croyais qu'il avait tué les 2 parents, » dit celui-ci. « Mais vous me dites que c'est le père qui aurait tué la mère. » C'est là que ça se pimente. Parce que d'après le légiste, outre la plaie du thorax par arme blanche, la mère présentait une trace de coup à la tête. Mais aucun des enfants n'a voulu s'en expliquer. Chaque fois que nous abordions le sujet, leur visage se fermait. C'est seulement quelques jours plus tard que nous avons eu un semblant de réponse. Nous avions présenté à Telly de nouveaux éléments recueillis sur la scène de crime en espérant l'encourager à parler. Il n'a eu qu'un seul commentaire. « Ça doit être moi, alors. » Curieux comme formulation. Il n'avouait pas et il disait que ça devait être lui. Quincy aussi trouvait ça curieux. La plaie par arme blanche était mortelle. La mère souffrait d'une hémorragie interne. Impossible de savoir si les secours auraient pu la sauver. « Intéressant. » Egan haussa les épaules. « Est-ce que vous auriez conservé le bilan psychiatrique ?» demanda Quincy. « Mais certainement, quelque part, je pourrais vous repêcher ça. Mais spontanément, je dirais que 3 raisons principales m'ont conduit à renoncer aux poursuites. D'une part, la toxicomanie et la violence avérée des parents. D'après le voisinage et tout l'entourage, il était prévisible qu'un drame se produirait un jour dans cette maison. » D'autre part, Telly présentait plusieurs plaies par arme blanche, ce qui confirmait les dires de sa sœur. Il se trouvait en situation de légitime défense. Enfin, la mère aussi avait été poignardée avant de recevoir un coup de batte sur la tête, et les traces de sang dans le couloir accréditaient la version donnée par la sœur. Telly n'a jamais fourni un récit complet ? Non, juste son fameux « ça doit être moi » alors. Conformément aux règles de procédure, nous l'avons fait examiner par une spécialiste. Le docteur Berenice Dutkowiak. J'étais inquiet d'un tel déchaînement de violence. Je voulais un avis d'expert avant de décider d'engager ou non des poursuites. Mais d'après le docteur, ce type de dérapage est classique quand un enfant avec le passé de Telly explose. Lui-même ne sait sans doute pas combien de fois il a frappé son père.
La psychiatre s'intéressait davantage aux capacités d'adaptation dont il avait fait preuve avant l'incident tragique. Tout indiquait que les meurtres eux-mêmes avaient été commis sous le coup d'une impulsion, pas préméditée mais déclenchée par la fureur d'un père sous l'influence de la drogue. Les analyses toxicologiques. Les deux parents étaient shootés à mort. Encore un point qui plaidait en faveur du garçon. La question s'est posée de savoir s'il souffrait d'un TRA. Trouble réactionnel de l'attachement. C'est ça. Et bien sûr, le docteur Dudkowiak voulait vérifier s'il n'aurait pas présenté des symptômes de la triade McDonald. Énurésie, pyromanie, cruauté envers les animaux. Exactement. Mais rien à signaler de ce côté-là. Au contraire, le garçon montrait des capacités de comportement maternant, étant donné le soin avec lequel il s'occupait de sa petite sœur. Et même si le docteur redoutait un TRA, entre la toxicomanie des parents et le degré d'exposition des enfants à la violence, il était normal que l'attachement n'aille pas de soi. Quincy était bien placé pour le savoir, après avoir lu le dossier de Charla. Et, naturellement, après avoir passé les 3 dernières années avec une enfant capable de s'enfermer dans sa tête pendant de longues périodes, et ensuite de les regarder, Rainy et lui, comme si c'était eux les fous. Egan prit une nouvelle gorgée d'eau. L'argument décisif aux yeux de la psy a été la relation qu'entretenait Ellie avec sa sœur. Vraiment ? Vraiment. D'après les dires de Telly, corroborés par ceux des enseignants et autres, le garçon prenait soin de sa sœur. C'était lui qui l'élevait, en fait. Il lui préparait son petit déjeuner, s'occupait de son linge, la conduisait à l'école. Il l'emmenait aussi à la bibliothèque l'après-midi et lui lisait des livres, pour retarder le retour à la maison, apparemment. Et d'après Charla, Telly intercédait aussi en sa faveur quand leur père devenait violent. Il avait pris des coups à sa place, ce genre de choses. Quincy hocha la tête. Ce scénario qui voyait un enfant élever un frère ou une sœur encore plus jeune n'était que trop fréquent dans les familles frappées par la toxicomanie. Aux yeux du docteur Dudkowiak, l'attitude de Telly prouvait 2 choses, dit Egan en les énumérant sur ses doigts. D'une, que le garçon avait la capacité de nouer des liens, puisqu'il tenait de toute évidence à sa petite sœur. Et de 2, que Telly avait fait de son mieux. Je crois que c'est mot pour mot l'expression qu'elle a employée. Le fait qu'il ait endossé tous ses rôles d'adulte montrait qu'il avait essayé de compenser les défaillances de leurs parents. Chez un enfant aussi jeune, on s'attend à rencontrer 3 ou 4 stratégies d'adaptation. Telly les avait toutes mises en œuvre. Malheureusement, son père avait tout de même choisi de se shooter et de s'armer d'un couteau de cuisine. C'est à ce moment-là que Telly a renoncé aux méthodes traditionnelles pour choisir l'option batte de baseball. Du point de vue de la psychiatre, c'était un dénouement regrettable, mais assez prévisible. Qu'est devenue Telly ? Je ne sais pas. Les premiers jours, il a dû bénéficier d'un placement en urgence. Et ensuite, j'imagine que les services sociaux ont dû lui trouver une famille d'accueil susceptible de lui convenir. Plus de proches encore en vie, donc pas de solution de ce côté-là. Charla a été placée séparément, indiqua Quincy. Le dossier qu'on nous a communiqué interdit tout contact avec son frère. Il faut dire qu'il lui avait cassé le bras avec une batte. Ce qui n'a pas empêché Charla de le défendre. Egan haussa les épaules. Il n'était que procureur après tout, pas chargé des affaires familiales. Quoi qu'il en soit, Telly avait perdu les pédales cette nuit-là. Les autorités concernées ont sans doute jugé préférable de donner un peu d'air à Charla. Elle avait déjà passé sa petite enfance auprès d'un père violent. Pourquoi y ajouter un frère violent ? Ce qui, au vu des événements de la matinée... Le silence se fit entre les deux hommes. « Est-ce que le docteur Dudkowiak exerce encore ?» reprit Quincy. « Son cabinet se trouve à Portland. Ma secrétaire pourra vous fournir le numéro. À mon tour. Je viens de voir une image de la vidéo de ce matin. Telly, qui regarde droit vers la caméra, sans la moindre expression sur le visage. Rien. » Quincy ne répondit que par un silence qui en a pris suffisamment long au procureur. Celui-ci poussa un profond soupir. Ça va mal finir, n'est-ce pas? Si on se fie aux statistiques. Quincy vida sa bouteille d'eau, la reposa sur un carton. Ça va se terminer par une fusillade avec un gamin de 17 ans. S'il ne nous tue pas avant.